Les enjeux internationaux avec vous, Xavier Martinet, bonjour.
Bonjour Jacques Meunier, nous aussi avec les enjeux, on parle Union européenne et catholicisme en quelque sorte, avec cette première tournée européenne pour le président sud-coréen Moon Jae-in, du président Macron jusqu'au pape François. Il est venu chercher des soutiens au rapprochement avec la Corée du Nord, mais va-t-il les trouver? On en parle avec vous Juliette Morillo, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être venue, vous êtes spécialiste des deux Corées, rédactrice en chef d'Asialist et bien sûr co-auteur avec Dorian Malovitch du Monde selon Kim Jong-un. Alors, le monde selon Moon Jae-in cette fois, puisque c'est sous la forme d'une tournée dans 5 États européens qu'il va faire sa campagne de ralliement pour celui qu'on présente donc comme l'artisan depuis un an du rapprochement avec la Corée du Nord. Le président Moon mise gros sur l'Union européenne, dont la présidence disait il y a 15 jours, c'est le pilier principal de l'ordre international. La tournée européenne du président contribuera à créer un nouvel ordre en Asie du Sud-Est. Alors, il voit loin avec pour objectif principal la levée des sanctions prises ces deux dernières années contre la Corée du Nord, plus largement replacer Pyongyang dans le jeu international. Ainsi, après avoir vu les dirigeants français et italiens, Moon jouera aujourd'hui l'entremetteur en remettant au pape François une lettre d'invitation officielle de Kim Jong-un. Moon poursuit donc la réhabilitation de ce qu'on peut appeler les crevettes dans un jeu de baleines. Juliette Morillo, les deux Corées reprennent leur destin en main en vue de la paix. Potentiel prix Nobel pour 2019, Moon Jae-in, peut-être en tout cas avec le risque de court-circuiter la stratégie américaine ou d'un certain isolement, comme on a pu le voir avec en tout cas cette première étape en France, peut-être un peu décevante pour Moon Jae-in qui voulait obtenir le soutien d'Emmanuel Macron en vue de porter le cas de la Corée à l'ONU, assouplissement des sanctions, mais c'est pas du tout ce qui s'est passé lundi.
Non, je pense que les Sud-Coréens ont été un petit peu déçus, c'est-à-dire que Moon Jae-in en effet aurait voulu entraîner la France et l'Union Européenne dans ce processus de pacification de la péninsule, mais la réaction française qui semble presque négative, enfin, pas vraiment négative, elle est, je dirais, à côté de la plaque. Il y avait énormément d'espoir, et finalement les Français proposent simplement l'envoi d'experts nucléaires. C'est vrai qu'au Quai d'Orsay, on a de très 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 bons experts prolifération dans tout le domaine nucléaire, mais on ne soutient pas finalement ce président sud-coréen qui fait avancer des choses, qui a besoin d'un véritable soutien, et on s'aperçoit que la France est en grand décalage, puisque dans la conférence de presse. Après, on s'est aperçu qu'on en est encore au CVID, c'est-à-dire une demande de dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible, alors que les Américains eux-mêmes se sont finalement rendus à quelque chose de plus réaliste. Il est évident que cette dénucléarisation se fera pas du jour au lendemain et qu'il faut que ce soit step by step, étape par étape. Et Moon Jae-in a véritablement besoin de ce soutien européen et français, et il ne l'a pas obtenu. Et la France, je vous le rappelle, est quand même, avec l'Estonie, le seul pays européen à ne pas avoir de relations diplomatiques avec la Corée du Nord, ce qui, je trouve, est un petit peu attristant et désolant.
Et d'ailleurs, la présidence française a insisté sur le fait qu'elle ne reconnaîtrait toujours pas, pour garder un levier, disait-elle, la Corée du Nord. Mais alors, justement, là, vous êtes entré un peu dans le cœur du sujet. Est-ce que c'est pas directement cette stratégie de Moon Jae-in qu'on voit un peu battu en brèche si on s'attarde aux déclarations? Donc ce que voulait Moon Jae-in, c'était que l'ONU montre sa bonne volonté finalement en levant ses sanctions, en disant les Nord-Coréens doivent être assurés qu'ils aient fait le bon choix en acceptant la destruction de l'arme nucléaire. Et ce que dit Emmanuel Macron, c'est au contraire qu'il faut que les Nord-Coréens fassent un geste. Est-ce qu'il n'y a pas deux stratégies inconciliables là-dessus?
Je dirais que Moon Jae-in a une stratégie, je dirais que l'Europe n'a, enfin la France en tout cas, Emmanuel Macron n'a pas de stratégie. C'est-à-dire, c'est en cela que c'est particulièrement décevant. Il faut quand même réaliser que depuis un an, il y a un an, j'étais invitée sur ce même plateau et on parlait d'essais nucléaires, de guerre nucléaire, de missiles balistiques intercontinentaux. Enfin, depuis un an, les choses ont quand même évolué. Le président Moon Jae-in montre la bonne volonté nord-coréenne et finalement, le fameux accord du 12 juin, enfin pas accord, cette fameuse déclaration commune du 12 juin dernier entre Kim et Trump, que l'on a beaucoup critiqué car on l'a jugée floue, par le fait même qu'elle est finalement en effet assez floue et qu'elle se base sur le trust building, c'est-à-dire refaire naître après des années de défiance depuis la guerre de Corée, la confiance entre la Corée du Nord et la communauté internationale, par ses contours assez souples, permet finalement d'avancer très pragmatiquement sur le terrain. Et c'est ce Moon Jae-in, ce Sud-Coréen, qui véritablement est en train de porter tout cela tout seul et qui joue un petit peu cavalier seul envers et contre tout.
Une politique des petits pas, comme ça a été beaucoup dit, justement, puisque vous en parlez, ils sont de diverses natures, on pourrait dire civiles, diplomatiques, militaires, il y a eu un certain nombre d'avancées qui ont été faites, je ne vais pas toutes les citer, mais jusqu'où ça peut mener cette politique qui comprend aussi bien l'ouverture d'un bureau de liaison, allez, je ne les cite pas toutes, mais que la réouverture de liaisons ferroviaires ou routières entre les deux pays. Est-ce que ça peut permettre effectivement une situation cliquet, disons, irréversible ?
Alors, c'est un petit peu ce vers quoi tend Moon Jae-in. Alors, je vais vous reprendre. Pour moi, ce n'est pas une politique de petits pas, c'est une politique de grands pas. Parce que quand même, il ne faut pas oublier que la Corée du Sud, par exemple, on parlait des liaisons ferroviaires, est techniquement une île avec la Corée du Nord. Si elle n'est pas reliée à la Chine, si elle n'est pas reliée par le réseau routier et ferroviaire qui va être relié à partir de décembre. Donc, on est véritablement, en dépit des sanctions internationales, en train de faire de grands pas, notamment via ce bureau de liaison et cette volonté de dialoguer en permanence 24 heures sur 24, notamment sur le domaine militaire, c'est en train d'avancer au point où justement, et c'est ce que veulent les deux Corées, que finalement les États-Unis ne puissent plus revenir à la politique des pressions maximales. Et je pense que la Russie et la Chine aussi ne veulent pas retourner à cet état-là. Donc finalement, on va de plus en plus loin pour qu'il n'y ait aucun retour en arrière possible.
Bon, et là, on voit donc qu'il n'a pas, Moon Jae-in, convaincu Emmanuel Macron. Est-ce qu'il a une chance de convaincre plus le Premier ministre italien, Jean-Claude Juncker, qui va rencontrer aujourd'hui ou demain plutôt ?
Je pense que ça restera très difficile et c'est dommage parce que je pense que l'Union européenne a véritablement un rôle à jouer et permettrait de faciliter ce travail où on a l'impression qu'il est tout seul. C'est pour ça qu'il mériterait, pour reprendre votre titre, qu'il mériterait ce fameux prix Nobel parce que vraiment il fait cavalier seul pour reprendre le destin de la péninsule en main avec son homologue nord-coréen.
En tout cas, il a déjà eu un titre, c'est celui d'apôtre, comme le disait le Figaro, apôtre de la réconciliation et du rapprochement entre les deux Corées dans un sens précis, puisqu'il va au Vatican porter, Moon Jae-in, porter cette lettre d'invitation de Kim Jong-un, sachant que le catholicisme est première religion en Corée du Sud.
Alors, non seulement première religion, mais il y a une histoire très particulière puisque la Corée, la péninsule coréenne, les Coréens, c'est une exception dans l'histoire du catholicisme, ont demandé eux-mêmes au XVIIIe siècle d'être convertis. Donc ça venait d'eux. Et il faut savoir que Moon Jae-in...
Fille aînée de l'Église en Asie.
Oui, il faut savoir que Moon Jae-in, en plus, est un catholique convaincu et que cette politique de la paix et de la main tendue lui est particulièrement chère, puisqu'il ne faut pas oublier non plus que sa famille est originaire de Corée du Nord.
Et qu'est-ce qu'il peut obtenir de ce point de vue-là, sachant qu'il y avait déjà eu des démarches de la Corée du Nord envers le Vatican, je crois, en 1991, qui n'avaient pas abouti. Une visite du pape François elle-même, qui avait été assez tendue en 2014 en Corée du Sud, pendant laquelle il y avait eu des tirs nord-coréens.
Là, je pense que les choses, on ne peut plus comparer cette époque à aujourd'hui. Je pense que, de toutes les façons, c'est un symbole énorme, et en cela, la Corée du Nord joue aussi extrêmement finement. On a vu qu'elle a utilisé d'abord le premier symbole important de la paix, qui était le symbole des Jeux Olympiques, les Jeux Olympiques de Pyeongchang, symbole de la paix, et puis maintenant, inviter le pape François à venir à Pyongyang est quand même diplomatiquement aussi très malin.
En tout cas, Kim lui a promis un accueil enthousiaste. À voir peut-être si on parle d'un dernier argument qui pourrait peut-être convaincre les Occidentaux et l'ONU d'une levée des sanctions, c'est ce qui est en train de sortir dans la presse sur la question de l'intérêt économique de se lier à la Corée du Nord et des terres rares.
Bien évidemment, c'est-à-dire qu'il faut savoir, alors ça peut faire peur également, que la Corée du Nord, le sous-sol nord-coréen est extrêmement riche, c'est plusieurs milliers de milliards de, de, de dollars de ressources dans ce sous-sol, notamment les terres rares qui sont capitales, notamment dans tout ce qui est haute technologie. Donc imaginez finalement une Corée, une péninsule coréenne non pas réunifiée mais qui fonctionnerait efficacement avec une main d'œuvre au nord qui est quand même très disciplinée, qui est coréenne, qui est d'un très très haut niveau technique. Ces terres rares, ce sous-sol très riche, et puis au sud, la haute technologie, je pense que tout le monde a à y gagner, mais ça peut faire peut-être un petit peu peur au Japon, à la Chine aussi.
Et avec un potentiel estimé, selon Atlantico, à 3000 milliards d'euros quasiment, ça laisse rêveur. Merci beaucoup en tout cas Juliette Morillo, spécialiste des Corées, on renverra à votre livre, Le Monde selon Kim Jong-un. Merci.